Épître aux Hébreux, chapitre 5, cette merveilleuse Épître aux Hébreux nous présente Christ d'une manière tout à fait extraordinaire. Ça vaut la peine d'étudier en profondeur cette Épître. Nous avons chanté tout à l'heure « Au-dessus de tout ». Et cette Épître aux Hébreux nous présente Christ comme étant au-dessus de tout. Au-dessus des hommes, bien sûr, au-dessus des anges, au-dessus de certains hommes de Dieu qui ont marqué l'Ancien Testament, tels Moïse, tels Josué et tous les souverains sacrificateurs. Il est au-dessus de tout et nous voulons vraiment devant lui nous prosterner, il en est digne. Notre verset d'introduction, donc au chapitre 5, verset 14. On va lire peut-être à partir de verset 11 pour bien comprendre dans quel contexte se trouve ce verset 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Ce matin, j'aimerais parler du discernement. Du discernement. Le verset 14 nous dit que la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Il semble, quand on lit à partir du verset 11, qu'il y ait eu un souci pour ceux à qui cette lettre était destinée, un souci de maturité spirituelle, à tel point qu'ils avaient du mal à discerner, justement, ils avaient besoin encore de certaines choses, comme de nouveaux convertis, des nouveaux-nés dans la foi, alors que ça faisait déjà assez longtemps qu'ils étaient convertis. L'apôtre ici le dira bien en verset 12, hein, « Vous en effet qui deviez être longtemps être des maîtres ». Voilà. Donc, c'était pas des tout nouveaux convertis. Malheureusement, ils manquaient d'une certaine maturité spirituelle et ils avaient donc du mal à discerner. Et j'aimerais parler du discernement ce matin. Mardi soir, à la réunion de prière, on a parlé des séductions. Et c'est vrai que nous sommes dans un monde où il y a la séduction qui est partout. Elle est à tout niveau, cette séduction. Elle touche tous les domaines de la vie. Nous sommes plongés dans un monde qui vit sous la séduction. Il n'y a qu'à voir les publicités. Rien de plus séducteur que les publicités. Enfin, la séduction, elle est partout dans ce monde. Et nous savons que le diable est un séducteur. Il y a quelques textes que nous avons lus mardi soir par rapport à cela. Il séduit les nations. Et surtout, par rapport au temps de la fin, on a aussi vu ça mardi soir, que cette séduction va s'accroître de plus en plus. Il y a une pression qui se fait dans la séduction à tel point que s'il était possible, même les élus soient séduits. Donc la séduction, elle est là, elle est prégnante, elle est dans tous les domaines de la vie, et il nous faut avoir du discernement. Il nous faut avoir du discernement, car cela est important pour nous. Je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire à un faux billet de banque. Il y a des contrefaçons qui sont vraiment très bien réussies, et on les met dans son portefeuille sans même s'en apercevoir, parce que au toucher, au visuel, rien ne ne laisse penser que c'est un faux billet. Il y a des faux billets, vraiment, au premier regard, on sait que c'est un faux billet, le toucher n'est pas le même, on regarde comme ça à la lumière du jour, il y a des défauts, ce n'est pas comme celui identique. Mais pour d'autres billets, c'est bien plus compliqué, et il faut bien connaître le vrai billet pour pouvoir discerner si c'est un faux billet. Et il faut trouver l'erreur. Vous savez, c'est comme les enfants, des fois, il y a des images, deux images qui se collent l'une à l'autre, chercher les 10 erreurs. Alors les enfants, ils cherchent, ah là, s'il y a un oiseau avec des plumes rouges, et celui-là, il a des plumes violettes, c'est pas tout à fait pareil. Donc voilà, il y a des nuances, mais on compare ainsi la copie originale de l'autre copie. Et c'est comme cela, on compare le vrai le faux avec le vrai. On a sous les yeux le vrai, et c'est comme ça qu'on peut voir si notre billet de 20 euros, par exemple, un vrai billet de 20 euros, et en tout point pareil à ce faux billet. Donc, il nous faut connaître le vrai. Il nous faut connaître le vrai. Et nous savons que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et nous avons parlé mardi soir de ces faux Jésus qu'on voit, et l'apôtre Paul en parle dans 1 Corinthiens 10. Si on vous prêche un autre Christ, un autre Jésus que celui que nous avons prêché, vous le recevez. Donc, il manquait eux aussi, les Corinthiens, de discernement. Donc, il nous faut connaître la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole qui vraiment est pour nous un repère, qui est, j'allais dire, l'unique source de notre foi. Notre fondement doit être basé sur la parole de Dieu. Et il nous faut avoir du discernement par rapport à tout ce qui est faux dans le domaine religieux, tout ce qui est faux dans le domaine spirituel. Et ce discernement, il nous vient de la parole de Dieu. Dans son premier chapitre, Salomon, qui a écrit les Proverbes, dira que ces proverbes, au verset 4, ont été donnés pour donner du discernement. Ils ont été donnés pour du discernement, pour avoir du discernement. Donc, ces proverbes qui vraiment nous donnent cette sagesse qui vient de Dieu, nous donnent ce discernement par rapport à la parole, par rapport à notre comportement, par rapport à la foi, et nous ne voulons pas, en la matière, manquer de discernement. Et si quelqu'un manque de sagesse, le discernement faisant partie de la sagesse, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, comme nous dit l'apôtre Jacques. On va lire un autre texte dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit : « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y a de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. » Amen. Donc, les pharisiens et les sadducéens, deux parties du judaïsme à l'époque, deux courants du judaïsme de l'époque, un très conservateur, les pharisiens, et un autre, les sadducéens, qui eux étaient plutôt les libéraux de l'époque. Et donc, ils ont abordé Jésus pour savoir, lui demandent de leur faire voir un signe venant du ciel. Pour eux, c'était important, comme dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, eh bien, les Juifs demandent des miracles, ils voulaient avoir une preuve que celui qui leur annonçait une parole venait de Dieu, donc Ils demandent à avoir un signe. Et Jésus va leur dire, mais vous savez discerner s'il va faire beau ou s'il va pleuvoir. Ils avaient leur service de météorologie de l'époque. Et donc, par rapport à certains aspects du ciel, ils arrivaient à discerner quel sera le temps. Et Jésus leur dit, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Et la parole de Dieu, elle est très claire concernant les signes des temps. Et c'est vrai, quand on lit Matthieu chapitre 24, on voit certains signes qui concernent la fin des temps. Et quand on lit ce chapitre 24, il y a pas photo, hein, j'allais dire, on voit vraiment que il y a des choses qui se sont enclenchées, qui sont là, qui sont une réalité aujourd'hui par rapport à ces signes des temps dont certains s'accomplissent. Quand on lit certains textes aussi du livre de l'Apocalypse, mais aussi d'autres livres qui sont prophétiques, à caractère prophétique, le livre de Jude, par exemple, est quand même assez prophétique. Et quand on lit ces textes-là, ça nous met en alerte et nous discernons en quel temps nous sommes. Et Jésus leur dira, une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Et vous savez ce qui s'est passé pour Jonas, qui a été avalé par le gros poisson et qui a été recraché après afin de le remettre dans la direction que Dieu le voulait. Et ce miracle de Jonas nous parle du miracle de la croix. Jésus est mort sur la croix pour chacun d'entre nous et il est ressuscité. Quel signe ! Quel signe ! Et les pharisiens le savaient très bien, que la résurrection de Jésus, pour eux, c'était vraiment par rapport à toute leur idéologie, que ça allait vraiment les mettre à confusion, parce que la résurrection de Jésus allait prouver d'une manière parfaite, j'allais dire, qu'il est réellement le Fils de Dieu, celui qui devait venir. Alors, cherchons discerner en quel temps nous sommes. Le Seigneur est celui qui est ressuscité et il nous a promis qu'il reviendra. Et nous voulons vraiment connaître ce qui est écrit par rapport à Jésus et par rapport à l'époque dans laquelle nous vivons, par rapport à ces signes des temps que nous voulons discerner. Et nous voulons nous attacher seulement à ce qui est écrit dans la parole de Dieu par rapport à ces signes des temps. Parce que, là encore, aujourd'hui, il y a toutes sortes de choses qui sont dites par rapport à ces signes des temps, mais nous voulons rester attachés à ce que le Seigneur nous a laissé dans sa parole. Il nous faut avoir du discernement, certes aussi de la simplicité, Jésus le dira bien, il nous dira d'être simple comme les colombes, gardons notre simplicité, sans tomber dans une paranoïa ou je ne sais trop quoi encore, mais en même temps Jésus nous a dit aussi d'être prudent comme des serpents, simple comme des colombes, mais prudent comme des serpents. Que le Seigneur vraiment nous donne ce discernement. Et pour cela, il nous faut en faire un sujet de prière. L'apôtre Paul, en tout cas, priait pour cela dans Philippiens chapitre 1er, verset 9. Philippiens chapitre 1er, verset 9. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Donc l'apôtre Paul priait pour que leur amour augmente de plus en plus. C'est bien que notre amour augmente, c'est important, Nous voulons prier pour cela. Et il rajoute, et ça c'est aussi, tout aussi important, en connaissance et en pleine intelligence. L'amour doit être éclairé. L'amour doit être éclairé. Et cet amour-là, qui est éclairé par cette connaissance et par cette intelligence, va nous donner ce discernement, afin que nous ne partions pas dans toutes les directions, mais que nous sachions ce qu'il convient de faire pour le discernement des choses les meilleures, parce que, j'allais dire, cet amour sans discernement nous amènerait peut-être à commettre des maladresses, peut-être on serait dirigé à ce moment-là par un certain sentimentalisme qui ne serait pas éclairé par la parole de Dieu. Donc ayons ce discernement des choses les meilleures et faisons-en un sujet de prière. Et pour nous, il y a cette nécessité d'être donc éclairé par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Comme l'apôtre Jean le dira, son onction nous enseigne toutes choses. Amen. L'Esprit de Dieu est en nous et il nous donne ce discernement. Il nous donne ce discernement et parfois nous sommes confrontés à faire des choix dans notre vie, à prendre des positions, à savoir quelle direction il faut prendre. Et nous, bien sûr, nous nous tenons dans la prière, nous lisons la parole de Dieu et il y a aussi ce témoignage de l'Esprit à l'intérieur de notre cœur et qui nous sait nous conduire et nous amener à discerner certaines choses. Même si sur le moment, peut-être ce n'est pas clair, c'est comme, vous savez, parfois on voit les montagnes au loin dans la brume. Voilà, on les voit, on les discerne. Hein, au fin fond de la brume, là-bas, au loin, on les discerne. Parfois, le ciel est vraiment très dégagé. Il n'y a pas besoin d'avoir des jumelles pour voir les montagnes. On les voit très bien. Mais parfois, il y a la brume, mais on les discerne. On les discerne, on les distingue au fond. Et parfois, c'est vrai que nous ne savons pas réellement, mais l'Esprit de Dieu nous amène à percevoir des choses que l'œil humain ne pourrait pas voir. Il met en nous un témoignage pour nous dire que voilà, ça vient du Seigneur, c'est la bonne direction à prendre. Et puis, parfois, il y a des subtilités qui nous dépassent. C'est pour ça qu'il y a aussi, eh bien, ce don de l'Esprit qui est appelé ce don de discerner les esprits. Alors là, on touche dans un domaine, j'allais dire, spirituel. On touche au monde des esprits pour savoir si telle ou telle personne est possédée, pour savoir si telle ou telle personne, elle parle par l'Esprit de Dieu ou par un mauvais esprit. Donc on a besoin, dans certains cas, dans certaines situations, de ce don de l'Esprit qui nous donne ce discernement qu'on ne peut pas avoir, qu'aucune méthode humaine ne peut pas nous donner, que la psychologie ne peut pas nous donner, mais que l'Esprit de Dieu révèle. Et l'Église a encore besoin aujourd'hui de ce discernement des esprits. J'accélère mon message, vu que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais que le Seigneur nous donne du discernement. L'apôtre Paul en parle aussi par rapport à la Sainte Cène. J'aimerais juste lire avec vous dans 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. On va lire le verset 29. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Là, encore, on retrouve ce mot, discerner, sans discerner. Alors, bien sûr, on lit ce verset, mais il nous faudrait lire ce qui est avant. Au chapitre 10, l'apôtre Paul parle aussi de la Sainte Cène, en relation avec l'idolâtrie. Il dira « ne devenez point idolâtre ». Il parle de la Sainte Cène au chapitre 10 en relation avec l'idolâtrie. Et puis au chapitre 11, il reparle encore à nouveau de la Sainte Cène. Mais s'il en parle dans ces deux passages, c'est pour que nous puissions discerner vraiment ce que nous sommes en train de faire lorsque nous prenons la Sainte Cène et nous rappeler certains fondements qui concernent notre foi. Et c'est vrai que nous avons l'habitude, dimanche après dimanche, de prendre la Sainte Cène. Mais cela nous rappelle quand même ce que Jésus a fait sur la croix pour chacun d'entre nous. Et quand nous lisons ces chapitres 10 et quand nous lisons le chapitre 11, l'apôtre Paul nous parle au chapitre 11, au début du chapitre 11, du voile pour les femmes, il en parle. Et en donnant cet avertissement, il dira au verset 17, vous vous réunissez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et après, il dira, voilà, vous avez des divisions. Il y avait des choses qui étaient devenues des sujets de division au sein de l'Église. Et l'apôtre Paul dira aussi encore ailleurs aux Corinthiens, mais Christ est-il divisé? L'Église, c'est le corps de Christ. Il n'y a qu'un seul corps. Or, si nous avons des divisions, nous divisons le corps de Christ. Mais quand nous prenons la Sainte Cène, comprenons bien que c'est le corps de Christ que nous prenons, qui nous rappelle cette dimension de l'unité. Et ils avaient perdu cela. Tout était sujet à division. Il y avait des courants théologiques et de pratiques qui les divisaient. D'autres avaient leurs favoris. Certains disaient qu'ils étaient de Pierre, d'autres de Paul, etc., et d'Apollos. Donc chacun avait et ça a créé aussi des divisions. Et donc mais le corps de Christ, il est le corps de Christ. Si on me coupe en deux, je serais mort déjà. Mais voilà. Quand nous prenons la Sainte Cène, nous rappelons cette unité du corps de Christ. Et puis après avoir parlé de ça, on voit aussi que l'apôtre Paul dira au verset 20, « Lorsque vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, l'un à faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu? Faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. » Puis après, il parle de la Sainte Cène. Parce que dans les tout premiers temps, les chrétiens prenaient la Sainte Cène au sein d'une agape et donc ils prenaient la Sainte Cène. Or, il y avait des inégalités qui existaient dans le monde et qui malheureusement se retrouvaient dans l'Église. Mais nous savons, et c'est important de discerner le corps de Christ, car nous sommes un en Christ. Il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, comme nous dit l'apôtre Paul, etc., ni juif, ni grec. Et là, donc, chacun a porté son repas. Sauf que, les riches apportaient leur abondance et commettaient des excès. Et les pauvres n'avaient rien, ils les regardaient manger. Méprisez-vous l'Église de Dieu? Faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Et ceux qui n'avaient rien, regardez les autres manger. Et cette inégalité qui existait en dehors de l'Église se retrouvait malheureusement au sein de l'Église. Alors l'apôtre Paul dira, mais celui qui mange et boit sans discerner le corps de Christ. Comprenons bien quelle portée à ce texte de la parole de Dieu qui nous rappelle vraiment avec force ce que le Seigneur a fait sur la croix et que son corps vraiment nous rappelle cette unité qu'il y a en lui et cet amour que nous devons porter les uns les autres. Alors puissions-nous discerner le corps du Seigneur, parce que, comme dit l'apôtre Paul, il mange et boit un jugement contre lui-même parce que sa vie est inconséquente. Et là, il ne parle pas, j'allais dire, de péché, L'adultère, c'est grave, le péché d'adultère, bien sûr. Mais ce n'est pas seulement ça que l'apôtre Paul évoque. Bien sûr, au chapitre 10, il parle de l'idolâtrie, mais il parle de division au sein du corps de Christ. Et on voit vraiment que ça a une grande importance aux yeux du Seigneur et que nous rappelons, justement, lorsque nous prenons la Sainte Seine. Alors, puissions-nous discerner vraiment toutes ces choses et tout ce que le Seigneur nous appelle à discerner. Et pour cela, il nous faut être des hommes et des femmes matures en Christ. Puissions-nous grandir dans la connaissance de celui qui nous a appelés. Puissions-nous grandir dans la connaissance de Jésus-Christ, lui qui est la vérité, et que sa parole qui est la vérité nous conduise encore dans tous nos choix, dans notre vie et dans notre comportement. Que Dieu soit béni.